السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce dimanche soir de nous réunir après la salat al-isha accomplie en congrégation pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre le dîn d'Allah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout pour connaître ce soir l'histoire de notre religion, un événement, un fait qui a marqué l'histoire de l'humanité avant même de dire l'histoire de l'islam, l'histoire de la umma, l'histoire du al-alamin, du monde des humains, du monde des djinns et du monde des anges. Alors, tout d'abord, quand on parle de la nuit du 27e, quand on parle de la nuit du 27e, souvent on se dit que ce soir c'est grande nuit. Je dis, ce soir c'est grande nuit. Et cette conception des choses a été véhiculée de génération en génération jusqu'à ce qu'à un moment donné, on finisse par intégrer le fait que la nuit, par exemple, du 27e Rajab a autant d'importance que la nuit du destin. Ou que la nuit du 27e Rajab a autant d'importance que la nuit du vendredi, ou que les nuits du mois de Ramadan. Alors il faut bien savoir quelque chose, parce que pour ceux d'entre nous, je pense que c'est la plupart des moussallis ici présents, hein, qui vont un peu sur internet, qui surfent un petit peu, qui lisent un petit peu les différents sites islamiques à La Réunion, en métropole, et de nos jours nous vivons avec ce qu'on appelle cette mondialisation de l'information, il y a également une mondialisation de l'accès à la religion. Ce qui fait que de l'île de La Réunion, on peut cliquer sur un site et connaître la position d'un alim canadien francophone sur tel masla, d'un alim québécois, d'un alim d'Angleterre qui parle français, etc., etc. C'est-à-dire que nos seuls référents, contrairement à 30 ou 40 années de cela, nos référents ne sont plus les alims de Saint-Denis, de la mosquée Nour Islam ou de l'île de La Réunion. Il y a une mondialisation de l'accès à la science religieuse. Ce qui fait que ceux qui sont un petit peu curieux dans le bon sens et qui surfent, ils voient que certains savants sont d'avis que se réunir pour la nuit du 27e Rajab est une innovation dans la religion. Tandis que d'autres vont dire que c'est une bonne chose, tandis que d'autres vont dire que c'est une chose totalement souhaitable. Avant de dire acceptable, qui est souhaitable. Alors, il faut savoir avant tout que les grandes nuits dans l'islam, c'est tout d'abord chaque nuit du mois de Ramadan. Chaque nuit du mois de Ramadan, nous devons occuper le maximum de temps, dégager le maximum de temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et se mobiliser bien plus qu'on se mobilise ce soir, les nuits du Ramadan. Également, les nuits impaires, principalement les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Ça, ce sont des grandes nuits, à l'appui des versets du Coran et des textes prophétiques des hadiths nabawi. Également, un degré un peu moindre, la nuit du 15 Sha'ban. Parce que pour la nuit du 15 Sha'ban, le hadith est de degré hassan, c'est-à-dire correct, hein, qui va vers le sens que dans cette nuit, Allah Ta'ala pardonne à un maximum de mu'min. Donc c'est une nuit où on doit demander tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont les grandes nuits authentiques de l'islam. Maintenant, il y a des jours importants. Les 10 jours de Dhul-Hijjah, avec les nuits qui viennent avec, selon l'opinion de la majorité des savants, il y a le jour de Ashura. Il y a également les 6 jours de Shawwal où il est sunnah de jeûner. Et pourquoi on appelle ces jours et ces nuits des moments importants du calendrier islamique? Parce qu'il y a des textes prophétiques qui prouvent les vertus. Il y a des hadiths qui prouvent les vertus de ces moments. Il y a également des récompenses à avoir et il y a des actions spécifiques à accomplir. Quand on parle de ces Shawwal, on sait tous ce qu'il faut faire. Quand on parle du jour de Ashura, on sait tous également ce qu'il faut faire. Maintenant, concernant le 27e Rajab. Concernant le 27e Rajab, les savants sont unanimes. Quand je dis unanimes, c'est les prédécesseurs et les savants contemporains. Ils sont unanimes sur le fait que la nuit du 27e ne comporte pas de vertu spécifique. Mais attendez, il y a une nuance. Il y a une nuance entre affirmer que la nuit contient une vertu ou ne contient pas une vertu et le fait de se réunir, de faire un programme ou autre chose. Et on va voir la nuance. La grande nuit du 27e a eu lieu, oui, en l'an 10 de l'ère Makki. de l'air mécoise. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la visite de l'ange Jibril alayhi salam, qui l'a amené pour le Isra et le Mi'raj. Ça, c'était la grande nuit. Le moment, comme on a dit, qui a marqué l'histoire des humains, des ins, des djinns, l'histoire de l'humanité, l'histoire des révélations. Chose qu'aucun prophète n'a eu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après ça, c'est en l'an 10, après ça, la période Madani, après l'émigration, ou pendant le khilafat d'Abu Bakr, le califat d'Abu Bakr, ou de Umar, ou de Uthman, ou de Ali, ou alors dans l'empire Umayyad, ou dans l'empire ottoman, ou avant ça l'empire abbasside, il n'y a eu aucun savant de l'islam qui a affirmé ou qui n'a célébré le 27e Rajab en disant que c'est une grande nuit, une nuit où il faut faire des choses spécifiques. Et si on remonte à l'histoire même des savants de l'islam, là on a parlé des sahaba, si on parle ceux qui sont venus après eux, les tabi'in, ceux qui ont vu les sahaba, ou ceux qui sont venus après les sahaba, les atba' des tabi'in, si on analyse la vie des muhaddithin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad, ou alors la vie des grands fuqaha, les a'imma, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, les mufassirin, on finira pas de citer Ibn Kathir, Qurtubi, etc., etc. Si on analyse, c'était les plus grands savants de notre umma, on analyse leur approche de cette nuit, ben on voit que personne n'a donné une considération pour la nuit du 27e. Personne n'a dit que c'est une grande nuit, comme parfois on a tendance à le dire. Maintenant, c'est là qu'on vient à la nuance. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on fait, les savants qu'ils ont dit, il faut faire ça, c'est des ignorants? Non, non. Il faut un juste milieu de notre vision des choses. Il faut qu'on comprenne bien le contexte. Il faut bien analyser. Alors, la nuance, c'est quoi? C'est que dans un souci de sauvegarde de la religion, surtout quand on est dans on est minoritaire dans un pays, comme c'était le cas, par exemple, de nos parents, grands-parents musulmans qui sont arrivés à La Réunion, dans un pays où il n'y a pas de pratique de dîn, où il y avait un souci de sauvegarder la pratique de la religion, un souci de rester attaché à nos valeurs religieuses, il y a eu des savants qui, à ces époques-là, dans différents endroits, qui ont pensé que c'est une bonne chose, sachant que c'est un événement historique, le Mi'raj, c'est un événement historique, et que les gens, en général, ils savent ce qui s'est passé en cette nuit. Et les gens savent que c'était le, pour la majorité des savants, le 27e Rajab. Sachant que cet événement a une place importante dans le cœur de beaucoup de musulmans, ils se sont dit que nous allons profiter de cet événement pour rappeler aux gens l'histoire du Mi'raj et en même temps faire passer des messages, parler de l'importance de la salah, parler de la vision de l'enfer, la vision du paradis, la valeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comprenons bien l'approche de ces personnes qui ont émis le souhait de réunir les gens la nuit du 27e. C'est par rapport à l'historique et le rattachement et l'impact psychologique du Mi'raj dans le cœur, dans l'esprit de chaque musulman. Maintenant, la suite de l'approche. Il y en a qui se sont dit, c'est l'occasion donc de réunir les gens pour parler du dîn. C'est une approche qui se défend. Mais il y en a qui ont dit également, c'est l'occasion de réunir les gens pour les faire faire des ibadat. Et là on va dire aux gens qu'il y a tel zikar à faire la nuit du 27e, ou il y a tel salat à faire, là on n'est pas d'accord. On accepte de parler du dîn en cette nuit, mais de là à dire qu'il y a des adhkars spécifiques, il y a une prière spécifique, ou il y a un jeûne, un carême, à faire pour remercier Allah Azza wa Jal qui a accordé le mi'raj au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, nous dépassons les limites de l'innovation dans la religion. S'il y a bien un serviteur d'Allah qui est le plus reconnaissant, et qui aurait dû être le plus reconnaissant pour ce cadeau qu'est le mi'raj, ça aurait été le principal intéressé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que tous les ans, je jeûne pour remercier Allah de m'avoir accordé ce mi'raj. Alors que le prophète nous a enseigné que nous remercions Allah Azza wa Jal de l'avoir accordé l'aide à Moussa alayhi salam sur Pharaon, c'est pour ça que nous jeûnons le jour de Ashura. Mais pour le mi'raj, le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais jeûné, n'a jamais fait de prière spécifique, ni donné une importance aux sahaba. Mais comme on dit, comprenons bien la nuance, avant de condamner les gens à droite et à gauche, vu le contexte, les savants ont adopté cette opinion. Et là, je vous cite le masla, les fatawa qui ont été demandés à différents savants du monde indien et du monde arabe également. Il y a trois positions. Il y a les savants qui disent mutlaqan, que c'est une innovation, une bid'a, car les personnes qu'on a citées, tous les tabaqat, le prophète sallam, les sahaba et ceux qui sont venus après eux ne l'ont jamais fait. Donc, c'est une innovation. Celui qui le fait est dans l'erreur. Il y a ceux qui sont, ça c'est un, je dis pas l'extrême, mais c'est une position. L'autre position extrême, c'est ceux qui disent que, bien au contraire, c'est une excellente chose. Et comme on a dit tout à l'heure, on va inciter les gens que ce soir, il faut faire le tahajjud. Parce que c'est la nuit du 27e. Et demain, il faut jeûner parce que c'est la nuit du 27e. C'était la nuit du 27e. Et ils vont se dire que, mais quand est-ce que les gens jeûnent un carême nafil? Ils ne le font jamais. Si ils peuvent jeûner le 27e, laissons-les croire qu'il y a une importance, qu'il y a des vertus. Ils jeûneront, ce sera profitable pour eux. S'ils ne lisent jamais le Coran en dehors du mois de Ramadan, laissons-les comprendre qu'il faut lire le Coran. Au moins, ils liront le Coran. Là, c'est pas acceptable. Parce que la religion, ça ne nous appartient pas. La religion, c'est la révélation d'Allah. La révélation d'Allah, c'est quoi? C'est la parole d'Allah. La religion, c'est également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est inspiration d'Allah. وَمَا يَمْتَطُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى. Le prophète ne disait jamais ce qu'il pensait être bon, ce qu'il disait émanait immédiatement d'Allah Azza wa Jal. Ce sont là des principes extrêmement importants. On ne peut se permettre de jouer, de contourner ou d'arrondir les angles parce que même si c'est pour un but souhaitable et louable. Donc on a tenu à revenir un petit peu sur l'historique de l'opinion des savants parce que je ne vous cache pas qu'il y a énormément de questions qui circulent sur Internet, sur Facebook, sur Twitter et disent ben, est-ce que c'est une grande nuit, oui ou non. Et là on a les savants hein, qui sont de métropole, d'Angleterre ou autre qui disent non c'est une bid'a, on a ceux du monde indien qui disent non c'est bien, on a, etc. Et les gens ne comprennent plus. Donc, on a tenu à bien expliquer les nuances pour les personnes qui risquent d'être intriguées. Est-ce que nous sommes dans le vrai, oui ou non? Alors, ceux qui disent qu'on peut le faire, il y a une condition, c'est premièrement, la première condition, c'est ce qu'on vient de faire. Expliquer aux gens que ce n'est pas une grande nuit. Mais, sachant que les gens viennent, c'est l'occasion de parler du dîn, c'est l'occasion de préparer les gens déjà à la venue du mois de Ramadan. Et là, attention par contre, au piège de Shaitan. Le piège de Shaitan, ce sera l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est quoi? C'est Shaitan qui persuade un musulman, va dire que, écoute, dans le mois de Rajab, il y a la nuit du 27e, c'est important, tu y vas, et tu te donnes à fond, tu fais le tahajjud, l'étude du Coran, tu viens à la salatul fajr, et tout comme il faut, et après, tu t'es acquitté de ton devoir auprès d'Allah. Na'oudhu billah, tu as donné le droit à Allah Azza wa Jal pour ce mois. Et puis tu reviendras à la masjid le 15e Sha'ban. Et là, quand tu viens, pareil, hein, on met les bouchées doubles parce qu'on est plus proche du Ramadan et Allah Ta'ala sera content et satisfait. Ce sera suffisant, ta mission sera remplie, accomplie. Et ensuite, tu viens tranquillement, Ramadan, et Ramadan, tu es là comme tous les ans. Ça, c'est un piège de Shaitan. Parce que le mu'min se prostère devant Allah, pas 27e, 15e Sha'ban, puis Ramadan. Chaque salat, 5 fois par jour. Ça, c'est le mu'min. Et si Shaitan nous dévie vers d'autres événements, quitte à faire beaucoup de bonnes choses, mais en délaissant les bases, là, on est complètement égaré par les wasawis, par les tentations de Shaitan. Vous savez, Shaitan peut induire en erreur une personne par le biais de péché. Mais Shaitan peut induire en erreur une personne par une motivation de la religion mais qui va dans le mauvais sens. Donc ça c'était une petite introduction sur l'historique et sur les nuances concernant le fait de parler du dîn ou non le jour du 27e Rajab. Maintenant, on nous a donné 35 minutes, hein. Bon, c'est un petit peu regrettable. Hein. Bon, Ismaël a réglé sa montre, j'ai vu tout à l'heure. C'est un petit peu regrettable, j'ai vu. Un petit peu regrettable, sachant qu'en ce moment, la salat al-Isha est très tôt. C'est la seule période de l'année où l'Isha est 8h moins le quart. On pourrait se dire que 45 minutes serait été correct. Mais donc, et puis, on dit également qu'il y a des gens attendent les résultats des élections. Alors, je sais pas, s'il y a quelqu'un dans la salle qui doit être élu ce soir, on comprend. Mais si personne n'attend d'être élu, surtout dans le premier canton, je pense pas que la personne qui va être élue serait dans la masjid. Donc, je vois pas l'influence qu'il y a. Et puis, avec Twitter, on sait immédiatement qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a pas gagné. On ne parle pas de religion, de politique dans la masjid. Et puis, il y a d'autres arguments. Il y a des gens qui vont me dire que, nana, match football. Hajib. Sachant que le match est à 22h45, si match il y a, je ne sais pas, c'est à 22h45. Alors donc, c'est un simple constat. De toute façon, si le Amir a dit 35 minutes, 40 minutes, on va respecter. Parce que c'est un principe que de respecter l'ordre du Amir. Et on le fera, Inch'Allah, et à 9h moins le quart, qu'on ait terminé ou non, On va s'arrêter à 9h-10, ça fera 35 minutes, Inch'Allah. Maintenant, la seule chose, le seul aspect un peu regrettable, c'est que quand on parle d'un bayan, c'est quoi un bayan? Un bayan, c'est pas juste un moïsab qui a envie de dire des choses, qu'on l'a mis au programme, il fait son travail, il dit des choses. Non, un bayan, c'est quoi? C'est transmettre le din d'Allah. Un bayan, c'est quoi? C'est dire aux gens que Allah Ta'ala a dit telle chose de le Coran et que ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez la foi, n'oubliez pas qu'Allah est votre Seigneur, votre Créateur, il vous a ordonné des choses, il vous a interdit des choses, il nous a ordonné des choses, il nous a interdit des choses, à nous de respecter les ordres d'Allah. Un bayan, c'est quoi? C'est rapporter aux gens que notre prophète Muhammad Mustafa alayhi afdalu salat wa atammu taslim avait l'habitude de faire telle chose, il n'aimait pas telle chose, il a dit telle chose, il a dit ne pas aimer que les gens disent ou agissent de telle manière. C'est-à-dire construire mon din. Un bayan, c'est faire passer un degré moindre le même message que les prophètes faisaient avec leur population. Ça, c'est un bayan. Ça veut dire que le bayan, c'est ressourcer notre iman. Le bayan, c'est construire notre foi. Le bayan, c'est quoi? C'est donner des indications pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit donc le peu de motivation que nous avons pour écouter 35, 40, 50 minutes, on se dit que c'est profondément attristant. C'est profondément attristant parce que Shaitan, il sait bien ce que nous, on a à gagner d'un bayan. Les anges sont présents et à la fin de l'assemblée, il rapporte à Allah Azza wa Jal qui était présent et Allah Ta'ala pardonne les péchés de chaque personne qui était présente. À nous de faire une propre analyse. Quelles sont nos priorités? Très souvent, on dit au Moulissab, Benjan, il fait ça. Regarde le jour, Nazina, il sort en boîte de nuit. Il fume Zamal, il fait ça, il fait ça. Oui, mais moi-même, papa, père de famille, ou moi-même jeune, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le dîn? Quel sacrifice, combien de mon temps je suis prêt à donner pour la religion d'Allah, pour apprendre le dîn d'Allah Azza wa Jal? Si dans une semaine, ou dans quelques jours, il y a en quart de finale, excusez-moi, France-Italie en quart de finale, et qu'à l'issue de 90 minutes, il y a des prolongations, dites-moi, qui éteindra la télé, dire que l'heure c'est l'heure? Et puis il va dormir, personne ne le ferait. Pour le dunya, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. On doit faire une autocritique, quel sacrifice de mon temps je suis prêt à faire pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que on a un retard à l'île de la Réunion par rapport aux musulmans et aux ulama d'origine indienne comme nous, qui sont en Angleterre, de toute origine confondue, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Canada. C'est-à-dire, ces savants-là, qui ont émigré de leur pays un peu plus avant nous, alhamdoulilah, ils ont ce qu'on appelle des conférences. Il y a un alim qui fait une conférence d'une heure ou d'une heure trente sur un sujet. Et les gens viennent, ils écoutent. Dites-moi, quand est-ce que on sera prêt à se mobiliser pour écouter un programme d'une heure, de 60 minutes ou de 90 minutes? Est-ce que nous comptons apprendre notre din avec 15 minutes de bayan de Jumu'ah par semaine? Est-ce que nous comptons apprendre notre religion avec 40 minutes 3 fois ou 4 fois par an? Chers frères, il faut qu'on comprenne bien quelque chose. Le din, c'est la religion d'Allah. Et qu'est-ce qui nous rapproche de la religion d'Allah? C'est la connaissance des ordres d'Allah. Et la connaissance des ordres d'Allah, on peut certes l'apprendre dans un livre, sur un site internet, mais la meilleure des relations, c'est comme les Sahaba, qu'on apprend avec un alim. Donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on arrive un jour à l'île de la Réunion de développer des concepts, le mot est grand, un concept, pour qu'on puisse faire des vraies conférences, une heure quinze, sur des sujets importants, pour qu'on apprenne notre religion. Le 27e Rajab, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Makki, le prophète alayhi salatu wasalam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam vient voir le prophète alayhi salam alors qu'il est à la maison de sa tante Umm Hani radiyallahu anha. Et le prophète alayhi salatu wasalam accompagne l'ange Jibril alayhi salam qui va l'amener près de la Kaaba au niveau du Hatim. On va citer rapidement les événements marquants du 27e, du Isra et du Mi'raj, et puis on va développer quelques points. On va pas raconter en détail, la plupart d'entre vous, vous connaissez du début jusqu'à la fin l'histoire du Isra et du Mi'raj. Tout le monde le connaît. On a entendu tellement de fois que ce n'est pas un rituel que de le rappeler. Donc, arrivé sur le Hatim, près de la Kaaba, l'ange Jibril alayhi salam a procédé au shaq al-sadr, à l'opération de la poitrine, une nouvelle fois. Chose que le prophète alayhi salat wa salam avait déjà vécu lorsqu'il était enfant. Mais avant de monter aux cieux, les muhaddithines expliquent que l'ange Jibril alayhi salam va renforcer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le monde du visible, le monde humain, le monde des mortels va rendre visite au monde du raïb, au monde de l'invisible. Et ces deux mondes ne peuvent cohabiter, c'est pas possible. Le monde de l'invisible peut venir ici. Les anges viennent. Mais le monde du visible ne peut monter dans le monde de l'invisible. C'est impossible. Sinon, ce corps est détruit. Ce cerveau, cet esprit est détruit. Parce qu'il y a des choses dans les cieux qu'aucun être humain ne peut supporter la vision. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam subit l'opération de la poitrine pour renforcer son cœur, pour lui donner la possibilité de voir des choses qu'aucune créature mortelle ne peut normalement voir sans s'évanouir ou alors mourir d'effroi ou d'admiration. Et il va remplir le cœur du prophète avec encore plus de sagesse et de foi. Ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam est invité par l'ange Jibril alayhi salam pour monter sur le Buraq, ce fameux cheval ailé que tout le monde connaît, et le Buraq va amener le prophète alayhi salatu wassalam, avec Jibril alayhi salam, à un endroit, Baytul Maqdis, en Palestine, qu'on appelle aujourd'hui Palestine, à la Masjid Aqsa. À cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur ce dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'entretenir avec eux, les plus grands parmi eux, qui vont raconter quel ni'ma, quel bienfait Allah ta'ala leur a accordé. Et ils vont discuter de sciences religieuses et principalement des signes de la fin des temps. Et dans cette conversation, tous les prophètes vont voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a le plus de science. Que le ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse de loin la science de Isa, de Moussa, de Ibrahim, de n'importe quel prophète, alayhi salatu wa sallam. Après cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Jibril, ils vont se rendre au ciel. Et là, c'est la deuxième partie du voyage. La première partie jusqu'à Baytul Maqdis, on appelle ça Al-Isra. La deuxième partie, on appelle le Mi'raj. Avec le Buraq, ils vont monter au ciel. Arrivé au premier ciel, il y a un ange, gardien du premier ciel. Ils vont demander le ijaza, l'istidhan, l'autorisation d'entrer, et l'ange va leur accorder l'autorisation de pénétrer dans le premier ciel. Et le deuxième, le troisième, pareil, jusqu'au septième ciel. Et à chaque ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer un ou deux prophètes particuliers. Au premier ciel, Adam alayhi salam. Au deuxième, Isa et Yahya alayhi salam. Au troisième, Yusuf. Ensuite, Idris. Ensuite, Haroun. Ensuite, Moussa. Et au septième ciel, Ibrahim alayhi salam. Arrivé au septième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir des choses extraordinaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va visiter ce qu'on appelle le Baytul Ma'mour, la maison peuplée. On va essayer de développer dans un instant, un petit peu. Il va voir également le Sidratul Muntaha, le jujubier céleste, cet arbre extraordinaire qui se trouve au septième ciel. Et là, au septième ciel, il va voir l'ange Jibril alayhi salam, non pas sous une forme humaine, comme c'était le cas pour les révélations, mais sous sa vraie apparence d'ange, avec ses 600 ailes déployées. Si le prophète l'avait vu dans ce dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas résisté. Aucun être humain n'aurait pu voir ça. Dans une version, je n'ai plus en tête si c'était Ibrahim, Moussa alayhi salam ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait demandé à l'ange Jibril d'apparaître sous son vrai aspect. Et il a déployé une aile parmi ses 600 ailes et le prophète s'est évanoui. Parce que le cerveau humain, les yeux humains ne peuvent pas voir l'invisible. C'est trop fort. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas capter autant de lumière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit ces trois choses exceptionnelles et ensuite il va visiter le paradis et il va visiter l'enfer. En enfer, il va voir certaines catégories de personnes qui sont torturées, hein, qui subissent les châtiments d'Allah pour certains péchés qu'ils ont accomplis dans ce dunya. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être reçu par Allah. Il va dépasser le Sidratul Muntaha. Endroit que personne ne peut franchir, même pas l'ange Jibril alayhi salam, ce fameux jujubier céleste, cet arbre du paradis. Et là, Allah Azza wa Jal va s'entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va lui accorder en cadeau 50 prières, 50 salats quotidiennes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte ce cadeau de la part d'Allah et ensuite il retourne dans ce dunya. Et au retour, il rencontre Moussa alayhi salam, l'histoire est connue, qui va lui conseiller de retourner auprès d'Allah, de demander à Allah de diminuer, parce que 50 salats, aucun être humain ne pourra le faire, diminuer jusqu'à 45, 40, jusqu'à arriver 5 salats. Ensuite, le prophète sallam retourne sur ce dunya avec le Buraq, et il retourne à Makkah. Et arrivé à Makkah, il retourne dans son lit qui était encore chaud. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui s'est levé un instant, et qui revient. On va voir pourquoi. Et le lendemain, il raconte au Quraysh ce qui est arrivé. Et les Quraysh vont se moquer de lui. Alors qu'un seul homme, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, va immédiatement accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, a décrit. C'est pour ça qu'on va l'appeler le véridique al-Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer au Quraysh la véracité de ses propos, Allah ta'ala va lui faire voir. Il aura une vision de la Masjid al-Aqsa et il va décrire au Quraysh qu'est-ce qu'il a vu avec précision. Et là, les Quraysh, parmi les Arabes qui ont déjà été dans cet endroit, ils vont être ébahis, étonnés de savoir que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de décrire, c'est exactement la description des endroits que eux ils ont déjà été, et ils savent bien Muhammad alayhi salat wa sallam, c'est quelqu'un de Makkah, il a grandi devant eux et il sait bien que cet homme là n'a jamais voyagé, à part la Syrie, il n'est jamais allé plus loin. Comment est-ce qu'il peut décrire avec autant de précision? Ça, c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam qui vient cette fois-ci l'enseigner comment accomplir la salah, quelles sont les conditions, quelles sont les différentes actions, les différentes positions de la salah après qu'il lui est révélé, après qu'Allah Ta'ala, pardon, lui ait accordé en cadeau ses salah. Donc ça, c'est l'histoire du Mi'raj très brièvement en 15 points. Maintenant, quelques leçons à retenir en 10 minutes, inshallah, c'est possible. Quelques leçons à retenir de ce Mi'raj. Premièrement, le rang, la valeur, la notoriété de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand des hommes, le plus grand des prophètes et la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors avoir un homme comme ça, comme prophète, c'est une chance, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala invite la meilleure des créatures et il envoie le plus grand des anges pour l'emmener, Jibril alayhi salam. Il envoie le Burak pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet honneur qu'Allah Azza wa Jal a fait, a accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala fait en sorte que chaque musulman jusqu'à la fin des temps se souvienne de ce cadeau, se souvienne de cet honneur qu'Allah lui a fait. De quelle manière? En lisant ce que notre jeune Hafez a lu tout à l'heure, Subhanalladhi asra bi abdihi. Quand quelqu'un va en voyage, il prend des photos pour amener comme souvenir, pour montrer aux gens. Mais là, c'est plus qu'un souvenir. Ce sont des versets qui ont été révélés, qui étaient là depuis Lawhim Mahfouz, depuis la table gardée. Avant même la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a fait honneur de Lawhim Mahfouz, ces versets qui montrent, qui prouvent l'honneur qu'Allah lui a accordé, et ces versets seront lus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il y ait un musulman qui lise le Coran. Toute la Ummah se souviendra régulièrement du cadeau qu'Allah Ta'ala a fait au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cadeau unique dans l'histoire des prophéties, et du rang qu'était celui du Prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons également le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les prophètes. On a vu qu'arrivé à Bayt al-Maqdis, il y avait tous les Anbiya. Et dans une version, il est dit que Jibril alayhi salam l'a pris par la main et l'a mis devant, quoique c'est lui qui officie la salah. Et dans une autre version, et ça se rejoint, les Anbiya savaient qu'il devait y avoir une salat, une prière qui devait être faite en jamaat, en congrégation. Et à l'unanimité, ils ont décidé de mettre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme imam. Et ça prouve que le meilleur des anges et l'ensemble des prophètes sont unanimes sur la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ulama dit également, cela prouve que la sharia, la révélation qu'Allah fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dîn qui lui a été accordé dépasse de loin les sharia et les dîns de tous les autres prophètes alayhi salatu wa sallam. Et troisième chose, cela prouve que la umma de cet homme, la communauté, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de valeur pour Allah que la umma de tous les autres prophètes qui étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était l'unanimité des anges, du meilleur des anges et de tous les prophètes sur la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au niveau des cieux, lorsque le prophète retrouve ses prophètes dans les cieux, là où il reste jusqu'au jour des comptes, chaque prophète qui l'accueillait, qui le voyait, il disait « Marhaman bil akh salih wa an-nabiyyu salih » Sois le bienvenu, ô notre frère vertueux, ô prophète d'Allah vertueux, avec autant de qualités. Tous les prophètes souhaitaient le bienvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous reconnaissaient donc, comme on a dit, la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les anges l'accueillaient, on pourrait dire, à bras ouverts. Lorsque Jibril cognait à la porte d'un des cieux, l'ange gardien disait immédiatement, qui es-tu? Il dit, je suis Jibril. Il dit que, qui est avec toi? Il dit que c'est Muhammad. Immédiatement, les sept anges des sept cieux, ils ont demandé la même question, est-ce qu'il a déjà reçu sa mission? Est-ce que ça y est, il est devenu prophète? Et là, lorsque Jibril disait, naam, oui, il est devenu prophète, il dit, marhaban bihi. Qu'il soit le bienvenu. Quel merveilleux moment que sa venue. Et Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Bukhari, dit que les malaïka, tous les habitants des cieux, attendaient avec impatience ce moment. Quand Nabiullah, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra enfin leur rendre visite dans les sept cieux. Voyez la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'humanité, al-alamin. Et la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah ta'ala s'entretient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, oh Muhammad, tu es mon bien-aimé. Le seul Habib, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que, oh Muhammad, je t'ai envoyé pour l'humanité. C'est le seul prophète envoyé pour le monde entier. Oh Muhammad, j'ai ouvert ta poitrine. Mohamed, j'ai enlevé le fardeau qui était sur tes épaules. J'ai exalté pour toi ta renommée. Lorsque quelqu'un parle, j'ai fait en sorte que dans cette communauté, lorsqu'il y a un khutba, le khutba ne compte pas si on ne dit pas, on n'atteste pas qu'Allah est unique et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et Allah ta'ala a cité tous les bienfaits qu'il a accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit ta communauté, c'est la dernière des communautés, mais c'est la première à être jugée le jour des comptes pour qu'ils aient moins à souffrir des supplices de l'au-delà. Donc nous voyons, premier point, quel est le rang, quelle est la notoriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux d'Allah et auprès de toutes les créatures. Et le fait même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse le Sidratul Muntaha, le jujubier céleste, alors que même l'ange Jibril alayhi wa sallam n'a pas le droit de dépasser cette limite, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et si on reconnaît qu'il est exceptionnel, on doit l'aimer. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Jamais vous n'aurez la foi, vous n'aurez jamais une foi complète tant que vous n'éprouverez pas de votre cœur un amour illimité pour moi, plus même que vous aimez vos parents, plus que vous aimez vos enfants et que n'importe quelle personne. Ça, c'est l'amour qu'un musulman doit avoir pour son prophète, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on aime un prophète, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'obéir. Suivre sa sunna, suivre ses recommandations et respecter les interdits. Ça, c'était le premier point. Il nous restait trois points, mais on va faire encore un point, on va terminer. La science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu les anges, les prophètes, ils ont discuté, enfin on n'a pas vu brièvement, ils ont discuté entre eux sur un signe, un point particulier, la fin des temps. On a demandé à Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce que tu sais à propos du Qiyama? Quand est-ce que ce dunya prendra fin? Ibrahim a dit, la ilma libya, je ne connais pas. Ils ont demandé à Moussa alayhi salam, dit la même chose, je n'ai aucune science à ce propos. Ils ont demandé à Isa alayhi salam, en appelant, si les chrétiens, Jésus-Christ, ils ont demandé à Isa alayhi salam, il dit que, pour la fin des temps, Allah seul le sait. Mais moi, ce que je sais, Isa alayhi salam, c'est que viendra une époque où Dajjal viendra sur cette terre, et que Dajjal aura extrêmement peur de moi. Et que, après la mort de Dajjal, Allah Ta'ala enverra des créatures, Gog et Magog, Ya'juj, Wa Ma'juj, et que les gens seront importunés et viendront me voir. Et moi, je ferai doigt pour qu'Allah Ta'ala enlève et détruit ces créatures. Et après la mort de Gog et Magog, et d'une parole magnifique, Isa alayhi salam, fa'in kana kadhalik, fa'inna sa'ataka al-hamil, dit que quand Gog et Magog seront détruits, alors le Qiyamat arrivera d'une façon soudaine. Ce sera comme une dame, une maman, qui attend un bébé à terme. La famille ne sait pas est-ce qu'elle va coucher ce soir, demain ou dans trois jours. C'est la métaphore utilisée par Ibrahim alayhi salam. Ça, c'était le quota de science de Isa alayhi salam concernant la fin des temps. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une science beaucoup plus importante, beaucoup plus de connaissances sur le din d'une manière générale et plus encore sur la fin des temps. Isa alayhi salam, il peut affirmer tel événement. Pourquoi? Parce qu'il sera là. Il sera un élément moteur de la fin des temps. Le prophète ne sera pas là, mais il connaît exactement ce que Isa alayhi salam a annoncé. Il sait également les événements qui vont avoir lieu avant la venue de Isa alayhi salam, l'apparition de Dajjal, les signes de l'apparition de Dajjal, le règne, les batailles menées par Dajjal. D'où est-ce qu'il va venir? Il va sortir de tel endroit, du côté de
son parcours de l'Afghanistan, il va passer en Iran, il va passer en Irak, il va venir à tel endroit, il va aller à Makkah, à Madinah, il sera refoulé, il ira dans le monde entier. Des détails qu'aucun prophète ne savait, aucun prophète n'a enseigné à sa communauté. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'un jour on est prêt à s'asseoir une heure de temps pour parler de Dajjal? Parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, il faut au moins une heure à 1h30. Mais 20 minutes, on ne peut rien faire, ni 30 minutes. Donc un jour, si on est assoiffé de connaissances, on fait, on provoque finalement un programme où une heure de temps, on peut aborder un thème et augmenter notre connaissance religieuse. Troisième point, il y avait un point important concernant l'aide d'Allah après les difficultés. Le prophète sallam vient de subir des difficultés. Le décès de son oncle qui le protégeait. Le décès de Khadija radiallahu anha qui était toujours à ses côtés. Ce qu'on appelle l'année de la tristesse, am al-huzn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de subir pendant 10 ans à Mecca toutes sortes de complications, de difficultés de la religion. Nous musulmans, en 2012, on se plaint très souvent de discrimination. Que c'est dur, je dis être musulman, c'est pas facile. On a la barbe, les gens vous regardent, hein, ils vous dévisagent. Hein, il y a une pression médiatique, il y a un acharnement médiatique sur notre communauté. Il est difficile de pratiquer sa religion. Mais analysez le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il a vécu? C'est pas qu'une pression médiatique. Nous, on souffre principalement de la désinformation. Il n'a pas souffert de la désinformation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté. Il a eu des souffrances psychologiques. On l'a traité de menteur. On l'a traité de fou, d'égaré, na'oud billah. Alors qu'avant ça, c'était l'homme le plus aimé à Mecca. Il n'est rien de plus difficile que d'être aimé par des gens. Et du jour au lendemain, on vous traite de fou, de menteur. C'est la chose la plus dure psychologiquement. Et le prophète sallam a dû vivre ça. Le prophète sallam a subi l'humiliation et la désinformation. On l'a traité de sorcier. Et vous savez, c'est quoi un sorcier? Un sorcier, c'est quelqu'un qui vit parmi nous. Qui vit parmi nous et qui du jour au lendemain peut vous faire du tort, peut faire du tort à votre femme et à vos enfants. Alors qu'il vit parmi nous, on ne sait pas que c'est un sorcier. Et de nos jours, lorsqu'on parle, ça c'est une déduction personnelle, ça n'engage que moi. Lorsque de nos jours, on parle d'un terroriste, c'est quoi un terroriste? Un terroriste, c'est quelqu'un qui vit parmi nous, qui prend le métro, qui prend le bus, qui est dans la société comme nous, et du jour au lendemain, il peut vous faire du tort. Mais comprenez que quand on traite quelqu'un de sorcier il y a 1500 années, c'est comme de nos jours, on traite quelqu'un de terroriste. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un comme nous, mais vous êtes profondément dangereux, vous causez du tort aux gens. Le prophète sallam a subi la trahison de ses proches, Abu Jahl, Abu Lahab, son oncle. Le prophète sallam a souffert physiquement. Est-ce que quelqu'un ici souffre physiquement? Non. Le prophète sallam a taïf, il a été frappé, agressé. Le prophète sallam a subi, il a été frappé par Uqba, par d'autres personnes, d'autres ennemis de l'islam. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme dans son dîn. Et là, il y a une leçon énorme à retenir. C'est que voyez comment le prophète sallam a supporté ses épreuves, malgré ça il est resté ferme dans sa religion. Alors, ce qu'il faut retenir c'est que, un, malgré les pressions parfois qu'il y a, sur nous, dans la pratique de notre religion, rester ferme et surtout ne pas avoir honte de notre identité de musulman. Ne jamais avoir honte d'être musulman. Ne jamais avoir honte de cette barbe. Ne jamais avoir honte si ma femme met un châle et elle coupe ses cheveux. Ne pas en faire un complexe d'infériorité. Vivre sa religion sereinement. Ne pas le faire de manière ostentatoire. Ne pas agresser les gens. Mais rester ferme et surtout être fier de notre dîn. Ne pas s'en prendre aux gens qui nous portent atteinte. Le prophète sallam a été frappé par les gens de Taïf. Il ne les a pas maudits. Alors qu'il aurait pu les maudire et les détruire par l'ange des montagnes. Même il y a des gens qui vous font du tort, ne pas s'en prendre directement à eux. Au contraire, faire comme le prophète a fait, dua pour les gens qui parlent de tort et à travers les gens qui vous veulent du mal. Et quatrième point, rétablir la vérité. De quelle façon? Par notre comportement et par notre parole. Il n'y a rien de mieux comme prêche, comme da'wa pour montrer aux gens que ce que vous dites n'est pas fondé et que nous sommes dans la vérité. Et puis, dernier point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le monde de l'invisible, thème qu'on développera peut-être une autre fois. Les choses exceptionnelles, on aurait, si on avait le temps, on aurait décrit le septième ciel. Qu'est-ce qu'il a vu au septième ciel? Qu'est-ce qu'il a entendu? Des tasbihs extraordinaires de la part des anges, des éclairs, du tonnerre, des choses incroyables. Qu'est-ce qu'il a vu à travers le Bayt al-Ma'mour? Qu'a-t-il vu au Sidratul Muntaha? Comment il l'a décrit? Comment il a vu l'ange Jibril alayhi salam et les anges qui portent les anges, qui portent le trône d'Allah? Les hamalatul arsh entre shuhmatu udhunayhi, entre l'aube de l'oreille d'un de ses anges jusqu'à son épaule, il y a une distance de 700 années. entre la cheville et le bas du pied d'un de ces anges qui porte le trône d'Allah Azza wa Jal, il y a une distance de 500 années. Allah Ta'ala a créé un ange qui, depuis qu'Allah s'est établi sur le trône, cet ange est en position de sijda. Et le jour des comptes, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala lui donnera l'ordre de se relever. Et là, il va dire, oh Allah, subhanak, lam na'budka haqqa ibadat. Oh Allah, nous t'avons pas adoré comme tu le méritais. Ça, c'est pour qu'on comprenne. Parfois, c'est des hadiths qu'on hésite. On hésite à expliquer parce que ça dépasse l'entendement. On peut se dire que oui, mais c'est pas possible, c'est inacceptable d'un point de vue logique et physique. Non. Parfois, il est nécessaire de dire quelques points pour qu'on comprenne trois choses. Un, quelle est la grandeur de la création d'Allah. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous nous extasions sur la création de l'homme. Les globules blancs, les globules rouges, la cicatrisation, la peau, les cellules qui se régénèrent. Ce sont des choses incroyables, ça. Notre iman augmente parfois quand on sort d'un cardiologue. Quelqu'un qui a eu un problème cardiaque, un artère bouchée, il y a un autre artère qui prend le relais. Mais qui a décidé de ça? Qui a décidé qu'un autre artère va prendre le relais d'un artère qui était bouché? Mais c'est bien le Créateur, le Seigneur des mondes qui a prévu tout ça. Donc on se dit que Allahu Akbar, la création d'Allah est extraordinaire. Mais Allah Ta'ala dit la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas. La création des cieux et de la terre est plus important et plus impressionnant que la création de l'homme. Allah a des créatures exceptionnelles. Et ces créatures-là passent leur vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si les anges passent leur vie à adorer Allah, nous, simples musulmans, quelle chance Allah nous accorde de faire un sijda. Et quelle honte nous devons avoir quand nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un musulman règle son réveil pour 7h du matin, se dit que je mets mon réveil pour 7h, je vais au travail. Délibérément, il néglige sa salat al-fajr. Mais comment délibérément un musulman peut se dire que je vais désobéir à Allah demain, je ne fais pas la salat al-fajr, je n'acquitte pas de mon devoir de mu'min. Ça, c'est inconcevable. Et quand on décrit la grandeur d'Allah par le biais de la grandeur de ses créatures, on comprend que quand on se prosterne, c'est devant le plus grand. Et comme c'est le plus grand, je ne peux pas me permettre de le désobéir. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on pourra, Inch'Allah, une autre fois développer. Et puis, il y avait un thème également, la Masjid Aqsa, hein, l'importance de la Masjid Aqsa et quel sera le rôle de la Masjid Aqsa de le futur. Dajjal, ce sera là-bas. Isa al-Islam, ce sera là-bas. La fameuse bataille d'Armageddon, ce sera également à ces endroits. Ça, on aura peut-être l'occasion une autre fois, Inch'Allah, de développer. Et dernier point qu'on aurait souhaité aborder, c'est les maladies de la communauté que le Prophète a décrit. Hein, les gens qui font pas leur salat, les gens qui ne donnent pas la zakat, les gens qui consomment de l'intérêt. Le Prophète a décrit quelle était leur punition dans l'au-delà. Ça me fait comprendre que, est-ce que parfois 1000 euros, 2000, 1 million, 2 millions d'euros, est-ce que ça vaut le coup si le jour de la résurrection, et ça il y en a qui n'aiment pas qu'on dise, mais il faut qu'on le dise, sinon Allah Ta'ala nous demandera pourquoi est-ce qu'on n'a pas propagé. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna ila kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Allah Ta'ala décrit que celui qui a consommé de l'usure de l'intérêt de ce dunya, il sera ressuscité le jour des comptes comme une personne possédée, une personne qui est atteinte par des démons. Et dans d'autres versets, il dit que celui qui le fait, fa'danu bi harbi min Allah wa rasuli, que la personne de la guerre à Allah et son prophète. C'est des choses, des versets qui sont lourds. Alors à nous de réfléchir sur nos agissements et on voit la description des conséquences, le jour des comptes également sur l'adultère, celui qui consomme l'argent des orphelins et des personnes vulnérables, le riba, etc., etc. Pas mal de descriptions des grands maux de la société qu'on retrouve malheureusement concentrés dans la Ummah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit les conséquences. Et puis également l'importance de la salah, reçue de la part d'Allah, près du trône d'Allah, sans intermédiaire, le seul acte d'adoration qu'Allah Ta'ala a accordé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première chose à propos de laquelle nous serons questionnés dans le jour des comptes. Si la salat c'est ok, toutes les autres étapes de la résurrection seront acceptées et seront facilitées sur facilitées. Le prophète l'a décrit comme le pilier de la religion. Enlever un pilier d'une construction, la construction s'effondre. Enlever la salat de la vie d'un musulman, le din s'effondre. Et c'est pas les grandes nuits qui vont compenser le manque de salat. Qu'on comprenne bien, mes chers frères, hein, que nous sommes à un mois et demi, à un mois et trois jours du mois de Ramadan. Si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire la salat régulièrement, c'est le moment de faire le niyah, de commencer à venir régulièrement à la masjid. Si on ne peut pas venir à la masjid, on est au travail, mais qu'on fasse sa salat à l'heure. Parce qu'Allah Ta'ala a promis, celui qui fait ses 5 prières, Allah Ta'ala lui a fait la promesse d'accéder au paradis. Et c'est ce que tout le monde veut. Celui qui le fait une fois, qui l'abandonne une fois, qu'il prenne la décision et qu'il demande à Allah de l'aider pour faire sa salat régulièrement. Et celui qui ne le fait pas, mais qu'il commence, Inch'Allah. Et celui qui le fait, pardon, on a déjà dit, celui qui le fait, il essaie de s'appliquer dans la concentration, dans la dévotion et de faire en sorte que les gens de la famille également accomplissent sa salat. Qu'Allah t'aide tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Plus important, c'est qu'on retienne les quelques leçons du Mi'raj, qu'on puisse les mettre en pratique. Et notre objectif, c'est quoi? C'est préparer le Ramadan et par la suite préparer notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala.